Allons-y avec notre invité spécial de passage à Paris. Nous accueillons une amie, une collègue, plus que ça même, on va dire une sœur.
Oui, bonjour Aïssa, c'est avec un grand plaisir. Merci de m'accueillir dans les studios d'Africa numéro 1.
Avec ta petite famille.
Avec mon gang.
qui s'est agrandi. Pour les auditeurs qui nous écoutent, j'accueille Delphine 2, ça vous dit sûrement quelque chose. Entre slam, femme de médias et d'autres préoccupations, en tout cas dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel et surtout du slam. Et elle a décidé, il y a un petit peu plus
11
de 10 ans, ça fait 11 ans, de s'installer.
Oui, parce qu'il y en a 4. Il y a les jumelles Imani et Malaika qui ont 14 mois. Ouais. Qu'on entend là en train de babiller. Et puis il y a Ruben, 4 ans, et Myria, bientôt 9 ans avec nous.
Alors ton histoire, elle est très particulière. C'est pour ça que j'avais envie, en tout cas déjà, de te recevoir pour te voir tes enfants. Parce qu'on se voit, on partage à travers les réseaux sociaux.
Ouais.
Mais se voir comme ça, se toucher, se sentir, se faire la bise et tout, c'est, ça n'a rien à voir.
En radio, c'est fort. Hein.
C'est, ouais, absolument. Surtout qu'une femme de médias, une femme de radio, une véritable passionnée de la radio.
La radio, c'est un média que j'adore depuis. Et le virus m'a piqué, il ne m'a jamais quitté. Et j'ai eu la chance de faire de la radio en France, de travailler avec Claudie Ciard à l'époque à Tropic FM,
ouais.
Avec Hortense Assaga, Peggy Broche.
Ouais.
Et ensuite, quand je suis partie en Guinée, de participer au développement de Radio Espace de Lamine Garassi et au développement de tout le groupe de presse qu'il a fondé, à savoir Adafou Média.
Delphine 2, on t'a connue dans le milieu du slam.
Je suis née à Paris, je suis née dans le 18e. D'ailleurs, là, c'est très émouvant parce que du coup, je suis logée juste à côté de là où j'ai grandi, où mes parents ont acheté leur première maison. Ça permet de montrer à mes enfants, en fait, les lieux de ma prime enfance. J'ai grandi à Saint-Denis, précisément.
Ouais.
Mais à l'âge de 6 ans, on est parti en Seine-et-Marne. Parce que la pollution du périph' nous avait terminé, ma sœur et moi, on était tout le temps malades. De 6 ans jusqu'à 17 ans.
Tu as travaillé pendant près de 10 ans du côté de la Guinée, où tu es d'abord installée lorsque tu as décidé de quitter la France pour t'installer sur le continent mer. 10 ans dans une belle aventure, parce que tu as marqué le paysage audiovisuel guinéen. Tu as beaucoup contribué au succès du groupe Adafo Média auprès de son fondateur et président Lamine Guérassi. Et aujourd'hui, tu es à Niamey, au Niger, depuis 3 ans, c'est ça, 3-4 ans?
Ouais, janvier 2019. À chaque fois, janvier, on change de pays. Janvier 2019, oui, parce qu'au départ, pour travailler dans la communication, travailler avec un grand frère que j'avais connu à l'époque où il y avait encore Itinéris au Grand Compte, qui était devenu directeur marketing et qui a voulu me confier en fait la direction de son agence. Et puis, c'était découvrir un vrai pays du Sahel. C'était vraiment découvrir un pays du Sahel, parce que la Guinée, c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais la Guinée, c'est très vert. C'est pour moi l'un des plus beaux pays d'Afrique, hein, la Guinée en termes de paysage, parce que chaque région naturelle a des paysages très spécifiques.
Ouais.
Et là, vraiment, je voulais découvrir le Sahel parce que je me disais que c'est une région que je ne connaissais pas du tout.
Ouais.
Et j'ai pris ça pour une opportunité.
Et l'idée qu'on en a, c'est la sécheresse,
exactement.
La chaleur.
C'est pas vraiment le cas, parce que Niamey, c'est en bordure du fleuve Niger, donc
ouais.
Ce sont des terres qui sont très fertiles, les terres en bordure de fleuve. J'ai été agréablement surprise, par rapport à la Guinée notamment, de manger aussi frais, aussi souvent, alors que la Guinée, c'est un peu plus compliqué parce que le grenier, il est au Fouta Djallon, donc il faut que la nourriture, elle fasse 900 km. Donc quand ta tomate, elle arrive, elle est un peu fatiguée. Alors que dans le Fouta, tu manges très bien. Mais alors que nous, à Niamey, on mange très bien parce que nos fruits et légumes, ils sont en bordure de fleuve. Donc ça, déjà, c'est un premier aspect. Après, bien sûr, c'est le désert, hein, c'est semi-désertique.
Ouais.
Mais il n'empêche que ce sont des cultivateurs, les Nigériens.
D'accord.
Contrairement aux Guinéens qui sont des cueilleurs. C'est-à-dire que vu que la terre, elle est fertile et tout, on peut laisser tomber les mangues, les laisser pourrir, etc. Alors que le Nigérien, s'il veut que quelque chose pousse, il faut l'arroser. Et la Guinée est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest.
Ouais.
On l'appelle le château d'Afrique de l'Ouest, mais c'est compliqué d'avoir de l'eau au robinet.
Ouais.
Et surtout, l'eau n'est pas potable. Alors que le Niger, pour moi, c'est un fait exceptionnel pour un pays semi-aride.
C'est un paradoxe, hein, quand même.
L'eau au robinet et elle est potable, Aïssa. Ça, pour moi, c'est incroyable.
C'est paradoxal. Hein.
C'est paradoxal et surtout que les quartiers, tu les identifies en fait au château d'eau. Pour te dire tellement, en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est une richesse. Et du coup, le Nigérien, il a accès à l'eau potable. au robinet, pas dans des sachets. Ça vient pas encore ajouter à la pollution.
Et c'est marrant parce que souvent, quand on regarde dans les médias occidentaux, excuse-moi, on présente le Niger comme l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Là, ce que tu me dis, c'est incroyable, en fait.
Mais le Niger est aussi le pays où il y a le plus d'ONG au monde. Donc, il faut qu'on se pose une question. C'est que normalement, dans les conditions normales, quand il y a plus de 2200 ONG dans un pays, les gens devraient se déplacer sur des nuages de chamallows, avec une climatisation chacun. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec 2200 ONG, à qui profite tout cela? Si ce pays-là était si pauvre, qu'est-ce que ces ONG viennent y faire?
Alors, pour qu'on comprenne un peu le contexte,
oui.
Que tu nous parles un petit peu du fait d'être retourné sur le continent africain, d'y avoir fondé ta famille avec deux enfants d'abord qui sont nés en Guinée, ensuite tes jumelles qui sont arrivées à Niamey. Pourquoi c'était important pour toi de construire ta famille en terre africaine?
C'était important parce que je pense avoir été complexée et avoir... J'ai été très complexée petite du fait d'être à chaque fois la seule noire de ma classe, de me prendre des réflexions assez racistes, assez désobligeantes, qui m'ont fait me rendre compte, en fait, par personne interposée, que j'étais noire. Sinon, moi, j'étais une petite fille comme les autres et j'avais envie que mes enfants ne subissent pas ça, tout simplement. Donc, j'ai été élevée par un père camerounais, Bassa.
Et, ouais, qui était présent?
Oui, jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à leur divorce, en fait.
D'accord.
Ils se sont séparés, mais... Je me voyais pas avoir des enfants en France, en fait. Je me sentais pas cette force-là. Alors que ça a été très simple pour moi, déjà même de tomber enceinte en Afrique. Ouais. Et même de les élever là-bas. L'épanouissement qui est le leur, c'est ce que j'aurais peut-être souhaité pour gagner du temps, moi, dans ma vie d'adulte.
Et en fait, c'est une véritable richesse pour tes enfants. Et dans quoi tu le constates, quand tu sais la différence entre les enfants d'ici et les tiens?
Leur émerveillement. C'est-à-dire que mes enfants, ils sont émerveillés de choses toutes simples, d'un carrousel, par exemple, le manège, le carrousel, ils sont émerveillés. Oui, dans leur émerveillement et aussi dans leur... un constat tout simple, par exemple, quand je leur donne à manger, peu importe ce que c'est, même si ça vient d'un restaurant, ils vont toujours avoir une attitude de manger et de pas faire trop de chichi, en fait. C'est inconvenant, en fait, en Afrique, quand tu as de la nourriture. Bah, quand tu as des enfants, tu as Libé qui m'en dit... C'est inconvenant à un moment donné de faire la moue devant de la nourriture.
Absolument.
Donc, quand des fois, parce qu'ils sont loin d'être,
oui,
parfaits, hein, je les ramasse souvent.
C'est des enfants, c'est des
enfants. Mais les enfants talibés sont en train de mendier et parfois le pantalon ne tient même pas. Enfin, on voit tout ce qu'il y a à travers. Ils ont conscience de leur chance. Je les trouve beaucoup plus enfants au sens innocent que les enfants d'ici qui sont beaucoup plus des enfants écran.
Ouais, qui sont connectés, hyper connectés,
du coup très solitaires. Ils ont du mal à échanger avec l'autre. Je travaille au lycée français Niamey. Ouais. Entre les élèves qui sont au lycée français Niamey, qui sont des enfants privilégiés, les enfants des ministres, voire même les enfants du président, etc., avec les enfants des lycées nigériens. Parce qu'on constate aussi cette différence-là. Donc, mais entre mes enfants qui grandissent dans ce contexte-là et les enfants d'ici, il y a beaucoup moins d'écran. Moi, je leur donne pas du tout accès à mon téléphone. Je les pousse, en fait, à faire ce que nous, on faisait quand on était petits, à faire travailler leur imaginaire et à trouver un jeu, quoi, entre eux.
Mais comment tu trouves le temps, la force de pouvoir et travailler et en même temps, parce que nous, souvent, ici, on utilise nos portables, on les donne à nos enfants ou on les met devant la télé. C'est une seconde nounou, en fait. On se dit, bon, j'ai 10 minutes, mon téléphone va sonner, j'ai un coup de fil professionnel à passer, donc je vais le mettre devant la télé.
Bah, bizarrement, justement, quand je n'avais que Myria, je trouvais que c'était compliqué. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est d'en avoir qu'un, je trouve.
Et en fait,
il y a le petit garçon qui s'est endormi sur le pagne.
Moi, ce que je vois à travers les réseaux sociaux, en tout cas, ce qui te fait rester debout malgré, parce que c'est pas facile quand même, c'est pas évident,
bien sûr,
d'avoir sa vie professionnelle, de s'occuper de jumelles. En plus là, accoucher des jumeaux, c'est compliqué, en fait.
Pour la première fois, en fait, j'ai eu de gros problèmes de santé suite à l'accouchement parce que j'ai eu mes jumelles à 44 ans, donc c'est pas rien. Je vais chanter une chanson peut-être qui va faire spéciale dédicace à tous les auditeurs congolais. S'ils connaissent cette chanson-là, qui est le l'antidote de celle-ci.
Vas-y.
Oh lélé, oh lélé, moliba, makasi puka. Oh lélé, malalika. Oh lélé, moliba, makasi. Voilà.
Bon, ça l'a calmé.
Ça l'a calmé. Non,
alors, elle aimerait que tu continues encore un petit peu.
Oh lélé, oh... Tu vois, elle connaît, tata. Moliba, makasi puka. Oh lélé, remix Malaika. Oh lélé, Moliba, Makassi.
Chantez ça à vos enfants ça les calmera. Je parle aux auditeurs d'Adeline. Ce qui est mignon, en fait, c'est que Myriad, la plus grande fille, elle vient de dire « Maman, c'est superwoman. »
Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça qui donne de la force, quoi. Voyager avec deux bébés, il faut normalement deux adultes. Voyager avec Air France. Mais il fallait que je leur fasse ça, parce que c'est vrai que la situation au Niger, c'est... Niamey est orange et tout le reste du pays est rouge. Donc, on ne peut pas sortir de Niamey.
Ouais.
Donc, je voulais vraiment leur offrir des vacances qui leur permettent d'aller piocher dans ces souvenirs-là le reste de l'année quand on est à Niamey. Après, on n'est pas enfermé dans notre maison, hein, on fait plein de choses, mais dans Niamey, quoi.
Mais en fait, cette image justement de mère qui assure quatre enfants en même temps, là je te vois, je suis admirative. C'est un peu à l'image de ce que tu as donné et comment tu t'es battue pour exister à travers tes passions, à travers ton art et le slam aussi, lorsque tu étais là, lorsque en fait c'était déjà dans ton ADN tout ça.
Je ne me voyais pas être maman dans ce contexte-là, c'était quelque chose qui me dépassait. Mais en tout cas, je sais que j'avais cet appel de l'Afrique. C'est Sarkozy, cette France, tu l'aimes ou tu la quittes. Bah, cette France de l'époque, là, avec toutes les réflexions désobligeantes vis-à-vis des Noirs, eh bien, j'ai préféré la quitter pour aller me ressourcer sur le continent.
Et en fait, qu'est-ce que, par exemple, là, quand tu viens aujourd'hui à Paris avec tes enfants, etc., qu'est-ce qui a changé dans la manière de vivre des Parisiens ?
Très intéressant comme question, parce que franchement, je me suis fait cette réflexion-là pendant tout l'été. Au sud, tout va bien. J'ai passé plus d'un mois à Perpignan, donc ouais. Ville FN. Mais avec des gens d'une gentillesse, des gens qui s'émerveillent devant les enfants, qui adorent les enfants. Faut faire en sorte qu'ils les touchent pas, parce qu'on sait pas non plus qui ils sont. Et que toucher la tête, enfin, c'est assez compliqué. Mais il n'empêche que beaucoup de bienveillance vis-à-vis des enfants, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de nous. Dès qu'on revient en région parisienne, c'est une sorte d'indifférence, une sorte de froideur. Même dans la banlieue, hein, où moi je suis une banlieuse art finie. Et bah, de constater que les gens sont devenus très froids, très indifférents. Bah, je suis pressée, je regarde plus rien, je m'émerveille plus de rien.
Oui.
J'avoue.
Ouais, parce que là,
je me suis dit, faut aller au sud de la France maintenant pour retrouver ce que nous on avait en banlieue avant, cette chaleur, cette solidarité, et puis cet émerveillement devant les enfants, parce que les enfants c'est quand même la vie, quoi. C'est Malaika, toi aussi.
Malaika.
Nakupenda, Malaika. C'est son deuxième tube.
Malaika.
Nakupenda. Oui, très bien chanté. Aïssa chante un peu mieux que toi, quand même. Pardon, hein, deux scorpions.
Merci.
quand même, joli brin de voix.
Nothing gonna matter in a way.
juste pour avancer un petit peu sur la situation des femmes, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, qui travaillent sur le continent africain tout en gérant leur foyer. Pourquoi c'est un sujet qui te touche et qu'est-ce que tu as envie de dire justement concernant ces femmes?
Ce qui m'a marqué au Niger, c'est que tu attendes un enfant unique ou que tu attendes des triplés, tu vas avoir 2 mois de congés payés. Tu es une femme qui travaille, tu attends des jumeaux, tu vas arrêter de travailler. Et c'est ce qu'ils attendent en fait de la plupart des femmes. C'est-à-dire que tu sens que le système n'est pas prêt à faire en sorte que les femmes fassent leur part. Sauf qu'elles ont besoin de le faire. Elles ont besoin de le faire dans un contexte économique qui fait que quand le mari perd son boulot ou qu'il a un problème de santé, c'est tout un foyer, parfois avec 7-8 enfants, qui se retrouve vraiment d'une situation, on va dire, un peu tendue à une situation dramatique, quoi. Ils se retrouvent directement à la rue. Et à chaque fois, je suis sidérée de voir les femmes qui n'essayent même pas, en fait. Parce que j'ai un contrat local, en fait. Et je me suis dit, il y a vraiment tout un travail à faire pour... La femme nigérienne va se dire que, à partir du moment où elle se marie, son mari va la prendre en charge.
Ouais, c'est ça. Et dans d'autres régions d'Afrique, c'est le cas.
Et c'est d'une violence, parce que vraiment tout, quoi. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, même le déodorant, quoi. Donc ça veut dire que tu vas préférer sentir la mort que te dire que tu vas monter ton petit business devant chez toi, de vendre, je sais pas moi, des beignets, ce que tu veux, farine massa. Après, beaucoup de femmes sont dans ça parce qu'elles n'ont pas le choix et que ce sont elles qui subviennent aux besoins de leur mari. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que celles qui dépensent de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui ont des boulots qui sont déclarés, etc., ces femmes-là, on leur facilite pas les choses. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour se dire « Ok, j'ai accouché une fois, j'ai accouché 2 fois, ou j'ai eu des jumeaux et je vais reprendre mon travail. » Au bout de 2 mois, moi, j'aurais pas pu, hein, physiquement, j'étais en vrac. Donc, autant te dire que j'aurais pas pu reprendre mon travail si les petites étaient tombées hors période vacances scolaires. J'aurais pas pu reprendre le boulot 2 mois après. Comme c'est physiquement impossible. Il y a Dieu dedans.
Moi, je dis le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu.
Exactement.
On est d'accord ?
Exactement, et ça, c'est exactement ça. Parce que je me dis qu'on a vraiment... une partie très lumineuse à apporter, on a des idées à apporter à tous les niveaux, que ce soit au niveau cadre, même dans les petits métiers, mais il faut qu'à un moment donné qu'on ait conscience que l'apport des femmes est indispensable, pas seulement complémentaire, il est indispensable. Dans la manière d'appréhender les choses, on est en complémentarité certes, mais sans l'apport des femmes, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas fonctionner.
On a l'impression que dans toutes les sociétés, en fait, c'est un phénomène qui est international, après à des degrés différents. Mais c'est partout dans le monde, en fait, que
Le patriarcat est en train de casser ce monde en 1000 morceaux.
Absolument.
Après, un féminisme éhonté, comme on le voit se développer en Occident, aussi, hein, à sa manière. Parce qu'en fait, ça met tellement peu en avant les vrais combats des femmes qu'on est un petit peu perdu. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je me dis, en ayant 4 enfants, dont des jumelles de 14 mois, en ayant repris le travail le 31 août 2021, c'est possible. J'ai certes 2 nounous, mais je voulais aussi me prouver que je pouvais partir en vacances et m'occuper de mes 4 enfants. Et que voilà, c'est mes enfants et je dois pouvoir m'en occuper et c'est le cas.
Et donc, tu passes du bon temps ?
Je passe du bon temps, comment te dire, j'ai hâte de rentrer à Niamey, me reposer avant la rentrée quand même, je vais pas mentir. Je suis exténuée, je suis cassée, j'ai le dos en vrac parce que voilà. Mais il n'empêche que je suis contente de l'avoir fait. Et après, de voir les étoiles dans les yeux des enfants, ça a pas de prix. Là, ils en ont facilement pour 1 an. Hein.
Et du coup, lorsque tu es rentrée à Niamey, c'était pour te consacrer à la communication. Tu as géré 2 agences de communication en tant que directrice. Et puis après, tu as eu l'opportunité de reprendre l'enseignement, c'est-à-dire que tu enseignais déjà ailleurs.
En fait, moi, mon parcours scolaire, c'est que j'ai fait l'UFM, en fait.
D'accord.
Mais quand j'ai fait les stages de pré-professionnalisation, j'ai d'abord fait un stage à Garges-lès-Gonesse, donc là où j'habitais, où je suis tombée sur un élève psychopathe qui avait tapé sa prof d'anglais avec son carnet de correspondance. Où, pour moi, ça allait se terminer dans les faits divers du Parisien, parce que s'il m'avait fait ça, je pense que j'aurais fait du mal. Et qu'on n'a pas le droit, en fait, en tant qu'enseignant, de frapper ses élèves. Donc, je me suis dit, il faut les prendre plus tôt. J'étais partie, donc... pour faire professeur des écoles. Et là, j'ai fait un stage à Montrouge, dans une école primaire, dans une classe de CP. Ouais. Et où un élève de CP avait dit à son enseignante de lui sucer son petit appareil. Et là, à Issa, je me suis dit, non, ce métier-là n'est pas pour moi, je vais tuer un enfant. Et bizarrement, tu vois, la vie commençait.
T'as l'air d'être zen quand même. Ça me surprend de voir que tu as eu ce genre de réaction. Non, c'est peut-être...
Je me suis dit, c'est pas pour moi, en fait. Je me suis dit, c'est pas pour moi parce que je connais mes limites à ça. Je me suis dit, clairement, si je fais ce métier-là, je risque de blesser les enfants des gens. Donc, Donc je me suis dit, là, c'est foutu. Je me suis dit, il y a un problème. Les parents n'éduquent plus leurs enfants. Ouais. Donc je me voyais pas enseigner dans ces conditions-là. Et j'ai tous mes amis là qui sont dans l'enseignement ici. La plupart, c'est pas top. Hein. Ils sont pas super bien parce que une copine a les CPE, les histoires qu'elle me raconte, c'est tellement glauque qu'on se croirait dans la série anglaise Kids. C'est assez violent. Donc du coup, là, j'ai eu l'occasion. En tant que professeur documentaliste, moi, pour moi, professeur documentaliste, la dame du CDI, ça sentait la poussière. J'allais jamais au CDI, moi, parce que j'ai toujours aimé lire, mais bah, la nana, elle était là, c'était une bibliothécaire, quoi. Je voyais pas l'aspect prof.
Ouais.
Et en fait, j'ai découvert un métier que j'adore, quoi. Un métier où je peux passer mon temps à lire, à faire découvrir des livres aux élèves, à nouer des relations avec les auteurs. Donc là, tout à l'heure, j'ai écrit à Jilly Amadou Amal pour lui demander d'adapter Les Impatientes au théâtre.
Ouais.
Parce que on a gagné un festival interscolaire avec Les Bouts de Bois de Dieu, une pièce que j'ai jouée il y a 10 ans ici en France. Et on a gagné un festival interscolaire. Et la prochaine fois, on veut présenter Les Impatientes. Parce qu'elle est venue et que ça a touché mes élèves. Je les ai fait la rencontrer. Ils l'ont interviewée. Un de mes élèves qu'il a interviewé, Ghislain Sanon, il a eu son bac avec mention bien. Ouais. Et Jelly a accepté de lui faire une vidéo pour le féliciter puisque c'était lui qui l'avait interviewé. D'accord. Et ça, quand tu fais ça pour tes élèves, je veux dire, lui, son amour de la littérature, il est cimenté. Mmh. C'est des élèves avec qui on a beaucoup échangé sur Jelly Amadou Amal, sur Mohamed Bourgarsar.
Ouais.
Et c'est des discussions sans fin à Issa. Et ça, c'est un métier, mais j'adore ce métier, quoi. À côté de ça, c'est les préparer aussi aux arts oratoires. Donc, il y a un concours qui s'appelle Ambassadeur en herbe. On a fait carton plein sur toutes les catégories. Et donc, on sera à Paris au mois de novembre avec nos élèves pour la finale monde.
Ce qui te permet d'allier toutes tes passions, en fait.
Comme tu le disais tout à l'heure, c'est le plan de Dieu, quoi. C'est incroyable. Moi, quand on m'a proposé le CDI, j'ai regardé le proviseur comme ça. Je lui ai dit, mais jamais j'irai dans le grenier là-bas avec tous les livres. Et en fait, après, il m'a expliqué vraiment en quoi consistait le métier. Et je me suis rendu compte que les personnes qui avaient tenu les CDI où j'étais passée, elles n'avaient pas conscience de toutes les possibilités qu'elles avaient.
Absolument. Et c'est aussi parce que tu avais toutes ces armes aussi que tu as pu acquérir au fil de tes expériences, etc. Et que tu as eu l'intelligence de te dire, tiens, j'ai telle arme, je vais la lier à ce que je fais et je vais additionner toutes mes compétences et ça va donner ça.
Ah, ça, c'est le meilleur métier de prof parce que c'est un métier de prof où tu es en contact direct avec les élèves et où, en plus, tu ne notes pas. Donc, les élèves ne sont pas dans un rapport avec toi où ils ont peur que tu les juges. Moi, je veux juste leur donner le goût de la lecture et le goût de l'analyse aussi.
Ambiance d'Afrique, c'est l'ambiance d'Afrique avec Aïssa Tiam.
C'est vrai, du coup, Nadège, que nous avons réalisé cette interview dans des conditions assez particulières, mais vraiment avec la joie, avec la famille, avec toutes ces valeurs africaines. Merci d'être venue nous rendre visite, surtout que tu as une superbe actualité à ton retour du côté de Niamey, puisque tu es toujours en France encore pendant quelques jours, puisque tu vas continuer sur RFI en tant que correspondante au Niger pour faire découvrir les talents du pays. Il y a également pas mal de choses, dont la sortie de Cœur Dompté de Madjiri et de Slim Samaïla Freeman. Ce sont deux artistes talentueux que tu suis. Il y a aussi un projet de long métrage où tu vas jouer un rôle. Et puis la reprise de tes cours en tant que professeur documentaliste au lycée français de Niamey. Et continue aussi de porter des projets culturels autour du théâtre et des arts oratoires. Merci à toi, merci à ta famille. Merci pour ce moment, Nadège. On te souhaite bon vent pour le retour au pays et la reprise. Et à très bientôt, on fait un gros bisou à la famille. Salut Nadège.